Merci Père pour la grâce et cette opportunité que tu nous donnes encore de nous tenir devant toi, de nous présenter devant toi. Nous venons, Jésus, tel que nous sommes, notre cœur, Seigneur, ouvert devant toi, Père, et nous te demandons ce soir de nous purifier, de nous laver de tout péché, de nous remplir de ta sainte présence, de nous donner encore de vivre une expérience avec toi. Merci de toucher nos cœurs et de glorifier encore. Merci de prendre le contrôle de ces instants, car tu dis là où deux, trois personnes sont là en ton nom, tu te tiens là au milieu d'eux. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci, Père. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolé pour l'état de ma voix, c'est ce qui arrive quand tu ne te protèges pas bien. Voilà, donc depuis hier soir, j'ai un petit mal de gorge parce que j'ai ouvert mon manteau, donc s'il vous plaît, faites pas comme moi. Okay? Alors, on va quand même chanter ce chant qui dit « Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. » Amen. Est-ce qu'on est avec moi ce soir? Super. Alors, on va chanter ensemble. Vous pouvez vous tenir debout, vous mettre à genoux comme vous voulez, je ne vais pas vous forcer. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit d'un même cœur, d'un même esprit. Amen. Ce que Dieu fait.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Combien il est bien d'être dans la maison de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur est ici. Et peu importe le nombre que nous sommes actuellement, mais la parole dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et je crois que nous sommes amplement suffisants pour recevoir Dieu au milieu de nous ce soir. Vous qui nous suivez également au moyen d'une plateforme Internet, alors soyez la bienvenue et nous croyons que notre Dieu ne manquera pas de vous bénir par cette séance de ce soir. Je vais vous inviter tout simplement à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, et c'est là que nous allons trouver le texte qui va nous servir de référence à notre enseignement de ce matin. Ce soir, merci. Ésaïe chapitre 7, et je vais lire pour vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, et je vais prier, et par la suite, vous allez pouvoir vous asseoir. Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 12. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vient dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt agités par le vent. » Alors l'Éternel dit à Isaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shiar Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du camp de Foulon, et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est à la tête de la Syrie et Retsin est à la tête de Damas. encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est à la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est à la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla à nouveau à Akaz et lui dit, « Demande à ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne veux pas tenter l'Éternel. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Éternel Dieu, trois fois saint, encore une fois, nous te disons merci pour ce moment béni que tu nous donnes. Merci pour le privilège, Seigneur Dieu, d'avoir encore à notre disposition ta parole. Nous savons, Seigneur Dieu, que ce moment était déjà connu de ta part. Chaque personne ici présente était déjà connue, Seigneur Dieu, de ta part. Et toi, dans ta science infinie, tu as déjà choisi le message pour ton peuple ce soir. Alors je me mets entre tes mains, je me mets à ta disposition. Agis, Seigneur Dieu, à travers moi. Fais de moi ce soir un instrument utile pour l'édification de ton peuple. Au-delà, Seigneur Dieu, de toute planification, de tout ce qui a pu venir de moi, je veux, Seigneur Dieu, m'effacer afin que toi, tu prennes toute la place pour que ton peuple puisse recevoir, Seigneur, pleinement tout ce que tu as préparé à l'avance ce soir. En ton nom, nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous savez, la Bible contient des passages qui nous surprennent deux fois. Pourquoi? Parce que le dénouement qu'on attendait, ce n'est pas le dénouement qu'on voit arriver. Par contre, même si ces passages-là sont surprenants, il ne manque pas pour autant de décrire les caractères de Dieu. Il est vrai que face au comportement des hommes, on attendait le plus souvent, probablement parce qu'on est humain, on voulait voir un châtiment arriver, mais Dieu, lui, est ce qu'il est. Et Dieu, ce qu'il est, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est exactement ce que nous venons de lire dans ce passage. Mais pour bien comprendre cela, il faut aller regarder les grandes lignes du livre d'Ésaïe et aller chercher à comprendre c'est qui ce personnage-là, c'est qui cette personne-là, le roi Akaz, dont il est question. Et c'est là qu'on va comprendre comment ce texte-là nous surprend, mais malgré tout, on voit que ce texte-là met en évidence le caractère de Dieu comme étant un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui juge et un Dieu qui console. Si on prend le temps pour regarder un court résumé du livre d'Ésaïe, on sait que ce livre-là est divisé en trois parties. Selon l'époque qu'on a vu les rouleaux, les dates que ces textes-là ont été écrits, mais on divise en trois parties. La première partie va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39 et essentiellement, ça parle de l'histoire de quatre rois. Le roi Ozias, le roi Jotham, qu'on a parlé tantôt, Akaz et son fils Ézéchias. À chaque période donnée, à chaque partie du livre, il y a également une prophétie qui est propre. Et la prophétie qui était propre pour la première partie de ce livre-là, c'était le jugement réservé face à la mauvaise conduite des rois, mais en même temps, devant le contexte géopolitique, étant donné que la ville était souvent assiégée, le peuple autour voulait s'accaparer de Juda, mais Dieu envoyait toujours un message de menace contre ces peuples-là. Donc, en résumé, le texte qu'on vient de lire fait partie du premier chapitre, si je voulais dire, du premier tome, parce que bien entendu, il y a déjà plusieurs chapitres. Donc, la première partie du livre, le texte qu'on vient de lire, étant donné que ça fait partie du chapitre 7, et la première partie du chapitre va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39. La deuxième partie, juste un bref résumé, traite de la période où le peuple était en exil en Babylone, et l'autre partie traite de la période après l'exil. Alors, après avoir vu de quoi qu'il était question, et on voit Dieu qui déplace Ésaïe pour aller adresser un message au roi. Un message où il lui demande de ne rien craindre. Mais c'est qui était ce roi-là? Et pourquoi c'est un tel message qui lui a été adressé? Akaz, comme on a vu dans le texte qu'on vient de lire, Akaz était le fils de Jotham. Par définition, petit-fils d'Ozias et le père d'Ézéchias. On parle de la période de ces quatre rois-là. Donc, Ozias, le grand-père, Jotham, le père, Akaz, le petit-fils, et Ézéchias, l'arrière-petit-fils. Concernant Ozias, et si on doit regarder l'héritage spirituel d'Akaz, qu'est-ce que la Bible nous apprend de ses parents? Regardons 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 3. La Bible nous dit, « Ozias avait 16 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Il est vrai qu'on prend l'histoire de son grand-père, on voit qu'il avait bien commencé. Même si par la suite, on voit que la suite n'est pas toujours ce qu'on décrit ici. Mais en bon Québécois, on est capable de dire, ben, en somme, ce n'était pas un mauvais roi. C'est un roi qui s'est appliqué pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Si on regarde maintenant le père, en parlant de Jotham, la Bible nous dit, toujours dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 27, le verset 6, « Jotham devient fort, car il régla ses voies devant l'Éternel, son Dieu. » Donc, et le grand-père, et le père, s'étaient bien conduits dans son ensemble pour laisser un héritage spirituel adéquat au fils ou au petit-fils Akaz. Qu'est-ce que la Bible nous apprend d'Akaz? Il y a deux chapitres qui traitent de ce roi-là. On a lu une partie dans Ésaïe, mais il y a deux autres chapitres, 2 Chroniques, chapitre 28, les versets 1 à 4, et 2 Rois, chapitre 16, versets 1 à 3. Pourquoi je prends le temps de vous parler de tout cela? C'est pour que vous compreniez très bien à qui Ésaïe s'est adressé. Regardons ce que la Bible dit de Akaz. 2 Chroniques, chapitre 28, versets 1 à 4. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait David, son père. Ici, on parle de son aïeul David, ce n'est pas son père directement. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même fit des images en fonte pour Baal. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnon et fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrit des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et surtout à Brevin. Donc, là, on voit que n'est pas l'héritage qu'il a reçu, Akaz. Et le livre des rois, essentiellement, nous décrit la même situation. Le texte qu'on vient de lire, on dirait que c'est la même chose. Deux rois, chapitre 16, les versets 1 à 3, nous disent « La 17e année de Pekach, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, commença à régner. Akaz était âgé de 20 ans quand il a commencé à régner. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme David son père. Mais il suivit les voies des rois d'Israël, comme le fit passer comme il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Et ici, quand on parle des rois d'Israël, c'est pas Juda. En ce temps-là, le royaume était divisé. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Juda faisait partie du royaume du sud. Et le royaume du nord était considéré comme une menace pour Juda. Et le royaume du nord se détournait de l'Éternel. Et ici, on nous dit, au lieu de suivre l'héritage qu'Akaz avait reçu de son père et de son grand-père, lui, il s'est détourné pour aller suivre les rois d'Israël. Et qu'est-ce que la Bible nous apprend des rois d'Israël? La Bible nous dit très clair que ces rois-là ne faisaient pas ce qui était en accord avec la volonté de Dieu. Entre autres, il y avait un roi dans le royaume du Nord qui avait fait des statues de veaux et il disait au peuple, « Mais voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Donc, tous ces rois-là poursuivaient la voie de l'idolâtrie et malheureusement, on voit qu'Akaz, lui, c'est ce chemin-là qu'il avait choisi. En résumé, il était idolâtre. Sous son règne, il y avait des autels pour les idoles un peu partout. Il a même fait passer ses enfants par le feu. Il les a sacrifiés devant les idoles. Et pour aller plus loin, il a même saccagé le temple. Il a pris les ustensiles du temple, il les a mis en pièces et il a fermé la porte du temple. Ce qu'on peut voir toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, mais à partir du verset 23, où on nous décrit que malheureusement, Akaz a commis tous ces gestes-là. Et ici, on ne parle pas d'une période où Juda était attaqué et puis il y avait un envahisseur. On parle d'un enfant. On parle d'un enfant de Juda. On parle du roi de Juda que Dieu avait choisi pour enseigner le peuple, pour orienter le peuple dans la bonne direction. Et c'est ce roi-là qui a commis toutes ces abominations-là. Et pourtant, c'est à ce roi-là que Dieu s'est adressé en la personne d'Ésaïe, en lui disant surtout, ne crains rien. Est-ce que cela vous surprend? C'est ce roi-là qui a commis tout ça, que Dieu a pris la peine de déplacer son prophète pour lui dire d'aller le rassurer. Je crois que si Akaz a reçu la visite du prophète, ce n'est pas en fonction de qui il est et ce qu'il a fait, mais il a reçu tout simplement cette visite-là en fonction de qui est Dieu. Dieu a voulu faire expérimenter à ce roi-là qu'il est effectivement un Dieu de grâce, un Dieu aussi qui juge, un Dieu qui console et qui encourage. Et c'est ce que je vais vous inviter à regarder ensemble dans le reste du temps qui m'est reparti. Un Dieu qui fait grâce. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et après avoir vu tout ce que Akaz a commis comme péché, on ne peut que constater qu'effectivement, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé et qui fait en sorte qu'il a pu recevoir la visite du prophète pour lui dire, on voit que le fils de Remalia, ce que Rétsin s'apprêtait à faire pour assiéger la ville dans un premier temps, on voit textuellement que, mais ils n'ont pas pu le faire. Parce que c'est Dieu qui a fait grâce. C'est Dieu qui a protégé la ville, qui a décidé de faire grâce à la ville. Et il dit plus loin que ne vous en faites pas, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. La menace, c'était montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche et proclamons quelqu'un d'autre à la place d'Akaz. En d'autres termes, on va faire un coup d'État. On va assiéger la ville, on va enlever la personne qui est là et puis on va mettre qui on veut à la place. Mais Dieu, dans sa grâce, dit non. Malgré le comportement d'Akaz, Dieu est patient. Il fait grâce. Cependant, on ne doit pas prendre la grâce de Dieu, on ne doit pas prendre la patience de Dieu comme un boulevard pour donner libre cours à nos péchés. Devant la grâce de Dieu, devant sa miséricorde, l'exhortation ou le message qui nous est adressé, c'est de préférence d'avoir le courage de se ressaisir et de changer notre attitude. De se rappeler que le Dieu qui nous fait grâce nous invite également à changer de camp, à changer de comportement pour ne pas expérimenter sa justice et son jugement. Parce que oui, si on tanne Dieu de sa patience, eh bien, on se doit de faire face maintenant à sa justice. On se doit de faire face à son jugement. C'est la même chose pour nous encore aujourd'hui. Nous vivons sous la dispensation de la grâce. Mais à un moment donné, lorsqu'on tanne Dieu, un jour viendra, la grâce ne sera plus, puis ça va être le jugement de Dieu qui va être exercé. Et on voit aussi dans le texte comment Dieu mentionne à Akaz qu'effectivement, il tient son registre pour juger. Par rapport aux envahisseurs, il a dit dans le texte, « Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on fait face à des difficultés, mais Dieu connaît cette difficulté-là, Dieu connaît la durée de la difficulté, mais Dieu connaît également la durée de vie de ceux qui nous imposent cette difficulté-là. Quand on compare ces deux rois comme deux bouts de tison fumant, ça veut dire tout simplement, c'est un flambeau. Au lieu d'avoir une flamme, au lieu de voir le feu, mais tout ce qu'on voit, c'est la fumée. Et on sait que lorsqu'un flambeau est en fumée, la flamme est sur le point de s'éteindre. Donc, pour encourager Akaz, le message, c'était de lui dire, même si vous les voyez autour de la ville, vous encerclez, mais sois sans crainte. Sois sans crainte. Encore 65 ans, ces personnes-là ne seront plus considérés comme un peuple. Moi, je les vois et je te le dis. Ce sont des tisons fumants. Il n'y a pas de flamme. Le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. Le message, c'est sois tranquille. Sois tranquille. Cela n'arrivera pas. Sois tranquille. Cela n'arrivera pas. Je suis l'Éternel Dieu. C'est moi qui te le dis. Sois tranquille. Mais pour avoir la tranquillité, ça prend quoi? Pour avoir la tranquillité, ça prend la foi. Il faut croire ce que Dieu dit est vrai. Si Dieu nous dit encore en peu de temps, vous ne voyez plus ces personnes-là qui vous menacent, mais il faut être en mesure de faire confiance à Dieu. Est-ce que Akaz avait fait confiance à Dieu? La Bible nous dit que non. Malgré ce message-là, plus tard, plus loin, la Bible nous apprend que Akaz a sollicité à la place l'aide du roi de la Syrie. Il a envoyé des offrandes en demandant à ce roi-là de lui venir en aide. Et qu'a fait ce roi-là? Il a tout simplement gardé l'offrande. Il a effectivement attaqué le royaume du Nord, mais peu de temps après, il a attaqué également Juda. Et la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et c'est ce que Akaz a expérimenté. Il a perdu plusieurs hommes et il a perdu également son royaume. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est de la même façon que Akaz a expérimenté ces problèmes-là, nous autres, comme chrétiens, on peut expérimenter, on peut connaître également des moments difficiles. On voit dans le texte qui nous dit que Akaz était agité comme des arbres agités par le vent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait face à nos moments de difficulté, l'ennemi veut nous rendre agités. Et le terme, le mot qu'on voit ici dans la Bible qui traduit le mot agité, c'est le mot noua. Et ce thème-là nous donne la signification de quelqu'un qui est vacillant, de quelqu'un qui est errant, de quelqu'un qui est chancelant, de quelqu'un qui tremble. Lorsqu'on fait face à des difficultés, l'ennemi veut nous faire trembler. L'ennemi veut nous faire déplacer, changer de place. Tout comme on avait dit à Akaz, on va prendre la ville et on va proclamer quelqu'un d'autre. C'est exactement ça le plan de l'ennemi face à nos difficultés. L'ennemi veut renverser l'ordre des choses. La position occupée par le croyant, l'ennemi veut faire en sorte que cette position-là ne sera plus occupée. Et l'image ici de l'arbre agité par le vent a également tout son sens. Parce qu'on sait qu'un arbre agité par le vent va finir par perdre des feuilles. Alors l'ennemi, parallèlement, c'est la même chose que l'ennemi veut faire. Lorsque l'ennemi veut nous rendre agités, l'ennemi veut nous déposséder de ce qu'on a. C'est à nous de savoir, dans nos moments de tourment, lorsqu'on est attaqué par l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi veut enlever? Est-ce que notre louange va rester encore à Dieu? Est-ce que notre adoration va rester encore à Dieu? Est-ce que notre confiance va être encore en Dieu et en lui seul? Contrairement à Akaz, eh bien, nous devons faire cela. Nous devons prendre la résolution de dire, si on est attaqué, mais on va rester ferme. On va fixer nos regards sur Dieu et on va veiller à ce que l'ennemi ne nous déplace pas. on va veiller à ce que l'ennemi ne nous enlève absolument rien. Nous ne sommes pas appelés à perdre des plumes. Ou si je prends l'analogie de l'arbre, on n'est pas appelé à perdre des feuilles. Comme chrétien, avant la période de tourment, notre adoration doit être restée intacte. Notre temps de prière doit rester intact. Notre temps d'adoration doit rester intact. Sinon, l'ennemi a déjà une victoire sur nous. Dieu nous dit de rester tranquille. Le message qui a été envoyé à Akaz, c'est « Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas, vous ne subsisterez pas. » En d'autres mots, si vous ne croyez pas ce que Dieu dit, mais vous ne serez pas capable d'être tranquille, vous n'aurez pas la paix. Et c'est pour cela qu'il faut prendre la ferme résolution de dire « On place notre foi en Dieu. » Pour rester tranquille, l'autre définition de rester tranquille, c'est d'être en paix. Et le mot hébreu ici, c'est le mot « shakat » qui nous donne également ce sens-là. Rester tranquille, c'est être en paix. C'est d'expérimenter cette paix-là que Dieu donne qui surpasse l'intelligence des hommes. Mais pour avoir cette paix-là, il faut être dans le Seigneur. Pour avoir cette paix-là, il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. Et contrairement à Akaz, il y a encore une autre analogie qui est assez importante et surprenante. C'est que Dieu a demandé à Ésaïe d'aller le rencontrer à un lieu spécifique. Le message, dans un premier temps, c'est au moment de nos épreuves, c'est que Dieu sait où est-ce qu'on trouve. Akaz était près d'un aqueduc, un point d'eau. L'histoire nous dit que son royaume était attaqué et il y avait un port qui était plus au nord et ce port-là était déjà tombé entre les mains de l'ennemi. Il était à cet endroit-là, probablement pour fortifier le point d'eau parce qu'il ne voulait pas que le point d'eau qui alimente la ville de Jérusalem tombe entre les mains de l'ennemi. Donc, au moment de nos épreuves, Dieu sait exactement où nous trouver pour nous secourir. Mais parallèlement, l'analogie de l'eau est également extrêmement importante. Parce que la Bible nous dit que Dieu est la source d'eau vive. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, et en Jérémie, on voit la même chose. C'est le message pour nous que lorsque on fait face à des épreuves, on se doit d'être près de la source d'eau vive qui est la parole de Dieu. Si on est à cet endroit-là, on sera bien abreuvé. On sera bien nourri. Et on va avoir la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pour expérimenter cette paix-là, au moment de la tribulation, lorsque l'ennemi nous attaque, mais on se doit d'être enraciné dans la parole de Dieu. En étant enraciné dans la parole de Dieu, c'est ça qui va faire en sorte que non seulement nos yeux vont être fixés sur Dieu, mais on sera capable de croire ce que Dieu dit. Si je n'ai pas la parole, comment je peux résister? Je vais effectivement être vacillé et l'ennemi va avoir le dessus. Je me dois d'être cramponné à la parole de Dieu. Akaz, malheureusement, n'a pas fait cela. La parole lui était accessible. Il n'avait pas une Bible entre les mains, mais Dieu avait envoyé expressément son messager pour lui donner cette parole-là, pour lui dire, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. L'ennemi encercle la ville, mais moi, je suis Dieu. Je suis plus fort que tes ennemis. Et je te le dis, ça n'arrivera pas. Mais il y avait aussi une mise en garde. Si tu ne crois pas, mais tu ne vas pas avoir la paix. La tranquillité ne viendra pas. Il faut croire. Dieu lui a demandé une preuve. Il dit, il ne veut pas tenter Dieu, il ne va pas demander. Une fausse modestie. Pour le comportement qu'on voit de cette personne-là, je ne crois pas que c'est une réponse qui est acceptable. Quelqu'un qui a cheminé aussi loin de Dieu et qui maintenant nous dit, non, je ne veux pas tenter Dieu. Tu ne peux pas tenter Dieu. C'est Dieu qui te le demande. Dieu a fait la même expérience avec Gédéon. Et ça a été un succès. Lui, de préférence, ou je crois plutôt, mais il n'avait pas foi. Il ne croyait pas. Il avait déjà son plan en tête. Son plan, c'était de demander l'aide d'un autre roi, plutôt de se confier en Dieu. Et c'est pour cela que le règne d'Akaz a été un vrai désastre. On voit que, dans son cas, on ne peut pas dire que le proverbe « tel père, tel fils » ne s'applique pas. Au contraire, on peut dire que le fruit est tombé vraiment loin de l'arbre. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu sait qu'il a un héritage pour nous. De la même manière que son grand-père, son père, lui a laissé une conduite, un héritage. On voit un qui a marché selon les règles divines, puis un qui a mis ses pas en règle avec Dieu, mais lui, il s'est laissé aller dans l'idolâtrie. Mais notre héritage que Dieu a pour nous, c'est non seulement l'image de ces hommes qui ont fidèlement servi notre Dieu, mais notre héritage, c'est le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais sans succomber. Et c'est ça notre héritage. C'est ça notre héritage. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est de croire. C'est de faire confiance. C'est d'avoir les regards fixés sur Dieu. Pourquoi je vous dis tout cela? Je vous dis tout cela tout simplement parce que si vous n'avez pas encore fait face à des difficultés, je suis bien content pour vous, tant mieux. Mais en même temps, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est qu'il va y avoir des moments de difficulté. Il va y avoir des moments où vous allez vous sentir comme Akaz, comme assiégé. Et l'image de quelqu'un, d'une ville qui est assiégée, je ne peux même pas l'exprimer parce que je ne l'ai jamais expérimenté. Mais mettez-vous à la place des citoyens d'une ville où on lui dit que l'ennemi est tout autour. Il n'y a nulle part où aller avec les menaces. Ce n'est pas seulement un royaume. C'est le roi de la Syrie, mais également le royaume du Nord. Et le royaume du Nord, c'était les 10 autres tribus. C'était beaucoup, plus nombreux que le royaume de Juda. Ça peut faire peur, effectivement. Il va arriver inévitablement des situations qui risquent de voler notre paix, qui risquent de nous faire chanceler, qui risquent de nous faire trembler. Mais de la même façon que Dieu a encouragé Akaz en lui disant, n'aie pas peur. Sois sans crainte. C'est le message que j'ai pour vous ce soir. Si vous connaissez un moment difficile, mais Dieu vous dit, sois sans crainte. N'aie pas peur. Si demain vous aurez à faire face à des moments difficiles, mais Dieu vous dit déjà, sois sans crainte. N'aie pas peur. Sois au bon endroit. Sois à la bonne place. Cramponnez-vous dans ma parole. Il y a toutes sortes de bénédictions, de belles paroles d'encouragement. Tout comme il l'a annoncé à ce roi-là. Mais pour que vous ayez la victoire sur cette tribulation-là, ou sur la tribulation que vous allez expérimenter, il faut croire. Il faut croire que Dieu, ce qu'il dit, c'est exactement ça qui va se passer. Ayez les regards fixés sur Dieu plutôt que de regarder la situation. Et ne vous confiez pas en l'homme, confiez-vous en Dieu. Dieu est notre secours. Si Dieu dit qu'il ne nous a pas promis de sombrer, mais il nous a appelés tout simplement à traverser la tempête pour aller de l'autre bord, mais c'est que Dieu est assez puissant pour le faire. Dieu est un juste juge. Dieu fait grâce, Dieu console et Dieu encourage. Alors, c'est le message que j'avais pour nous ce soir. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse et vous permette de passer à travers les moments difficiles. Mais soyez de bons exemples. Soyez des auditeurs qui n'oublient pas. Faites en sorte que ce message-là soit un héritage. Au moment de la tribulation, pour dire non, j'ai choisi de ne pas faire comme Akaz. J'ai choisi de fixer mon regard sur Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment passé en ta présence. Merci pour ta parole qui est puissante et efficace. Merci pour ces mots d'encouragement, parce que tu es le Dieu qui est avec nous. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ton peuple. Et tu es le Dieu qui nous protège. Père Céleste, je remets entre tes mains chaque personne ici présente dans la salle. Et même celles qui nous écoutent à distance. Tu connais les moments de chacun de nous. Au-delà des mots qui ont été prononcés, au-delà, Seigneur Dieu, des faibles paroles, que ta puissance, Seigneur Dieu, soit à l'œuvre. C'est toi, Seigneur Dieu, qui sonde les cœurs et les reins. C'est toi, Éternel, qui promet également la délivrance dans les épreuves. Que tu sois à mes yeux de pousser encore cette parole encore plus loin pour toucher des cœurs ce soir. Je ne connais pas la raison pour laquelle tu as choisi ce passage, mais Seigneur, je sais que tu as un but bien précis et qu'avec toi, il n'y a aucun hasard. Il n'y a que ce qui a été planifié au préalable pour chacun de nous. Alors, je remets ton peuple entre tes mains. Que tu puisses le bénir, que tu puisses le chérir, que tu puisses, Seigneur, manifester ta grâce, que tu puisses consoler et encourager ce soir. Pour ta gloire, nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vais tout simplement vous rappeler les autres rencontres du reste de la semaine. Demain, bien entendu, à 8h30, vous avez rendez-vous avec notre pasteur Florent pour la bénédiction matinale. Par la suite, vendredi matin, ça va être la même chose. Vendredi soir, à compter de 19h, vous avez également une prière d'intercession. Les jeunes vont se réunir également à la même heure. Et par la suite, on va se rencontrer ici dimanche prochain à 10h pour notre culte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse.